Suisse. Alors, nous procédons à la nomination d'un secrétaire de séance et je propose M. Hervé Auriac. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Christine Winkelmann a donné procuration à Sylvette Gilles. Émilie Lagier m'a donné procuration. Marlène Thibault a donné procuration à Jean-François Mengui. Jean-Paul Montagnier a donné procuration à Georges Point. Et Michel Payalonga a donné procuration à René Sauvérin. Martine Seller a donné procuration à M. Arcusi. Je vous fais état également de certains remerciements que nous avons reçus. Monsieur et Madame Mounier-Christian nous remercient pour avoir donné notre accord pour que les motos du motoball ainsi que les voitures de rallye stationnent à la sortie de la mairie et de l'église lors du mariage de leur fille Élodie Mounier avec Monsieur Eddy Baumet. Cela à la grande surprise des mariés, voilà, et ça a été une grande réussite. Madame Yvette Roux nous remercie infiniment pour le prêt de matériel auquel nous avons consenti pour l'anniversaire de son petit-fils, de ses petits-fils d'ailleurs, Benjamin et Grégoire Pichoncourt. Et enfin, toute l'équipe du Secours Populaire d'Orange tient à remercier le Club Ado de Camaret pour sa brillante action de collecte. La photo jointe a prouvé la bonne ambiance qui a régné au sein du petit groupe. Et mention spéciale à M. Jonathan Cerdin. Voilà, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques? Très bien, alors je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous allons passer à l'ordre du jour avec l'ajout d'un dossier complémentaire numéro 1, qu'on passera à la fin bien sûr, mais il faut mettre aux voix le fait que l'on le passe. Convention d'accès et d'occupation d'un terrain privé pour travaux communaux. Qui est contre cet ajout? Voilà, effectivement, M. Mengui, c'est le logement, enfin c'est le propriétaire qui est à côté des logements que nous souhaitons réhabiliter. Donc nous avons besoin d'une convention pour passer chez lui. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc dossier numéro 1, budget principal 2017, décision modificative numéro 1, rapporteur Sylvette Gilles.
Conformément à l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 29 mars 2017 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 29 mars 2017 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice 2017, vu les différentes réalisations effectuées en 2017 et celles en cours, vu l'avis de la Commission des finances réunie le 20 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune telle qu'annexée. Et je vais laisser le soin à M. Bally de la préciser.
Bonsoir. Voilà, donc cette décision modificative numéro 1 pour l'année 2017 est relativement simple. Bon, elle tient compte du contexte général des finances des collectivités territoriales. Donc en section de fonctionnement, en recettes, on acte le fait, si je puis m'exprimer ainsi, de l'augmentation de la diminution de la dotation globale de fonctionnement. On avait budgété une DGF avec les données que nous avions au début d'année à 113 000 euros. Elle ne sera finalement que de 85 000 euros. Donc on diminue des crédits en recettes de fonctionnement à hauteur de 27 323 euros. On tient compte également du retrait de la part de la CSAOP des subventions qui étaient données aux communes pour des activités de manifestation culturelle qui étaient de 2 000 euros pour la commune de Camaret, habituellement 1 000 euros pour la balade gouande et 1 000 euros pour Camaret Fête le Vin, donc ça a diminution de recettes également. Et on compense ces diminutions en actant les lignes en recettes de fonctionnement sur lesquelles on a déjà un excédent par rapport à ce qui avait été budgété. C'est ce que vous avez en nouveau crédit dans la colonne recettes. Les dépenses de fonctionnement, dans le même esprit, on doit acter l'augmentation du FPIC, du Fonds de péréquation intercommunale, par rapport à ce qui avait été prévu au budget primitif. Les services de l'État nous avaient dit que le FPIC resterait stable en 2017 par rapport à 2016. On avait budgété 86 000 euros. Finalement, ça sera 111 000 euros. Donc, on doit ajouter en nouveau crédit 23 000 euros au FPIC. Il y a également des subventions exceptionnelles aux associations qui font que nous ajoutons 10 000 euros sur cette ligne-là, dans le chapitre 11, ainsi que l'avenant de la convention qui lie la commune avec l'OGEC Saint-Andéol suite à la délibération du conseil municipal de juin ou de juillet dernier, 1900,80 euros, et on finance tout ça par des diminutions de crédit sur un certain nombre de lignes où l'on espère que d'ici la fin de l'année on arrivera un petit peu à serrer la ceinture pour combler ces nouveaux crédits. Voilà. En investissement, on acte les subventions nouvelles qui nous ont été notifiées après le vote du budget primitif, donc 42 000 euros de DETR pour les travaux qui vont être entamés avant la fin de l'année, route de Kéran et route de Travaillant, donc subvention de l'État. 69 166 euros, la subvention de la région PACA pour les travaux de réaménagement du terrain du motoball. Donc ça, ce sont les grosses rentrées en recettes. Et en dépenses, cette augmentation de recettes nous permet d'augmenter un certain nombre de lignes en nouveaux crédits, donc pour différents travaux, et notamment 70 000 euros que l'on ajoute au budget de 200 000 euros qu'on avait prévu au budget primitif pour les travaux des trois logements de l'ancien centre médico-social, puisque le marché va être attribué après le rapport qui sera présenté tout à l'heure, et donc les 70 000 euros viennent faire en sorte que nous pouvons financer la totalité des travaux sur un seul exercice, c'est l'exercice 2017. Voilà. En dépenses également, il y a deux diminutions de crédit, donc 5000 euros, une réparation de fuite sur la piscine du centre de loisirs. Finalement, le problème était moindre que ce qu'on imaginait, donc ça a coûté moins cher, donc on peut diminuer de 5000 euros. Et le projet d'acquisition d'un outil motorisé multifonction pour les espaces verts, l'équipe des espaces verts a testé en location cet outil et il n'était pas satisfaisant, donc il était décidé de ne pas l'acquérir, donc on diminue les crédits. Voilà.
Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Mengui.
Alors, bon, tout simplement, en cohérence avec la position qu'on avait eue au mois de juillet sur les dépenses supplémentaires, les nouveaux crédits concernant la subvention de l'OGEC et les subventions aux associations, en particulier au motoball, en cohérence avec notre position, on votera donc contre cette décision modificative.
Mais j'en prends bonne note, même si je regrette, bien entendu, cette position. Y a-t-il d'autres interventions? Parce que moi, je tenais quand même à dire quelque chose, et en particulier à exprimer ma colère face à toutes les attaques sur le plan financier dont sont victimes les communes, et en particulier les communes rurales comme Camaret, les petites communes. On nous dit que il faut faire des économies, diminuer la dette, notamment ce sont les contraintes de l'Europe de Bruxelles actuelle. Mais je rappellerai que en ce qui concerne le volume de la dette publique, elle est constituée à 80% par la dette de l'État lui-même, à 10% ou un petit peu plus par la dette de la sécurité sociale, et simplement à un petit peu moins de 10% par les collectivités locales. Donc je déplore franchement, vivement, que ce soit aux communes qu'on demande de faire le plus d'efforts. J'en veux pour preuve les indications de la Cour des comptes, hein, qui ont relevé que ce sont bien les communes et les collectivités locales en général qui ont réalisé deux fois plus d'économies que l'État depuis 2015, ces deux dernières années. Donc voilà, on est vraiment dans une façon de voir qui est tout à fait injuste et qui représente une menace sérieuse pour la survie des petites communes, des communes rurales, auxquelles les Français sont pourtant très attachés. Donc, bien entendu, cette décision modificative, on peut la qualifier de tout à fait restreinte, pour ne pas dire rikiki. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, on fait face à la fois à la baisse des dotations de l'État, mais aussi à l'augmentation que l'État demande, l'augmentation des contributions que l'État demande aux communes, et en particulier Camaret a été fortement impacté par l'augmentation de la contribution au FPIC demandée par l'État cette année. Alors ça, c'était un mouvement qui a été initié par le précédent gouvernement, mais je ne peux que déplorer que aujourd'hui la tendance s'aggrave. Hein, il y a une véritable aggravation de la politique gouvernementale par rapport aux communes, en particulier avec la suppression de la réserve parlementaire qui nous a bien aidés par le passé, la suppression des contrats aidés qui concerne aussi bon nombre d'associations. Ça, c'est complètement insensé, c'est complètement absurde. La suppression aussi de la taxe d'habitation. Je rappelle que la taxe d'habitation, c'est la première recette fiscale de la commune, source de recette fiscale de la commune. Donc il est complètement indispensable que ce soit les communes elles-mêmes qui maîtrisent cette recette en termes de liberté d'action. Eh bien non, on va nous supprimer la taxe d'habitation. On nous annonce qu'elle sera compensée, mais jusqu'à présent, toutes les annonces de ce type, toutes les promesses de compensation de ce type n'ont pas été tenues à un moment donné. À un moment donné, l'État a dit, finalement, on va arrêter de compenser. Et puis, de toute façon, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'elle va être compensée, cette suppression. Aussi, le plus probable, malheureusement, c'est qu'on va prendre un chiffre de recette fiscale à une année, par exemple 2017, et on ne tiendra plus compte, par exemple, de l'augmentation de population que Camaret va connaître immanquablement dans les 10 ou 15 prochaines années. Donc ça veut dire que la population va augmenter, les besoins d'équipement vont augmenter en parallèle, et on aura beaucoup moins de moyens pour y faire face. Mais en tout cas, pour ce qui concerne aujourd'hui, je suis tout à fait désolé d'annoncer aux Camarétois que nous rencontrons avec les associations ou dans les réunions de quartier, vous avez des demandes, beaucoup sont légitimes, en matière, par exemple, d'éclairage public, d'amélioration de la voirie, d'amélioration de la sécurité des piétons ou autres, et malheureusement, on pourra de moins en moins y faire face. Ça, c'est parce que l'État nous demande un effort très très important, qu'il ne fait pas lui-même, et en tout cas pas dans les mêmes proportions que les communes. Donc je tiens franchement à manifester ma vraie colère par rapport à cette politique qui est menée contre les petites communes, à la fois par le gouvernement précédent, mais aussi et surtout, je dirais, encore plus par le gouvernement actuel qui, par ailleurs, annonce ainsi une diminution drastique du nombre des élus locaux. Alors, quels élus locaux seront visés? Est-ce que ce ne seront pas certaines communes qui vont purement et simplement disparaître pour qu'il y ait moins de communes en France? Voilà, moi, je suis absolument pas d'accord avec cette politique, car je rappelle que, comme le disait Tocqueville, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Voilà. Pour ce qui concerne cette décision modificative, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre? Donc le groupe de Madame Thibault. Qui s'abstient? Le groupe de Jean-Paul Montagnier, adopté à la forte majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 2. Admission en non-valeur des créances irrécouvrables. Rapporteur Sylvette Gilles.
Le décret numéro 98-1239 du 29 décembre 1998 indique que les décisions prononçant une admission en non-valeur des créances irrécouvrables sont prises sur avis conforme de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale par le Centre des finances publiques. La trésorerie d'Orange sollicite l'admission en non-valeur des dettes détaillées dans le tableau ci-dessous. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret numéro 98-1239 du 29 décembre 1998 indiquant notamment que les décisions prononçant une admission en non-valeur des créances irrécouvrables sont prises sur avis conforme de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale par le Centre des finances publiques. Vu la demande d'admission en non-valeur émise par la trésorerie d'Orange pour un montant de 943,35 €, entendu, monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables relatives au titre de recettes mentionnées ci-dessus pour un montant global de 943,35 €. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6541 du budget principal 2017.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 3. Convention concernant le groupement de commandes pour la fourniture de produits d'entretien. Rapporteur Sylvette Gilles.
Le marché actuel pour la fourniture de produits d'entretien de la commune prend fin au 31 décembre 2017. Il convient donc de relancer une procédure afin de désigner un nouvel attributaire pour le 1er janvier 2018. L'article 28 de la réglementation des marchés publics dispose que des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant de la réglementation des marchés publics et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, de se regrouper en vue de rationaliser les coûts de gestion et d'améliorer l'efficacité économique des achats. Les communes de Sérignan-du-Comtat, Huchot, Piolenc et Camaret-sur-Aigue ont décidé de constituer un groupement de commandes pour le lancement et l'attribution d'un marché à procédure adaptée, MAPA, à bon de commande, dit accord cadre, article 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, pour la fourniture de produits d'entretien pour les services et bâtiments municipaux. La commune de Piolenc est désignée comme coordonnateur et sera donc chargée de procéder dans le respect de la réglementation des marchés publics à l'organisation de l'ensemble des opérations permettant de désigner un fournisseur, à la signature du marché public au nom des membres du groupement et à sa notification à l'attributaire. Conformément à l'article 28 de la réglementation des marchés publics, une convention constitutive du groupement et qui définit notamment les modalités de fonctionnement de ce dernier est soumise aux communes qui souhaitent adhérer à ce groupement. Chaque membre du groupement s'engage à exécuter, avec le co-contractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de produits d'entretien pour les services et bâtiments municipaux, d'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement à intervenir, d'autoriser le lancement de la procédure adaptée par les services de la commune de Piolenc, coordonnateur du groupement de commandes.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui.
C'est pour combien de temps ce groupement de commandes ? Non. Un an, deux ans, trois ans ?
Combien de temps ? Combien de temps ?
La durée du marché. De la ça va marcher sur trois ans.
Y a-t-il d'autres questions ?
Ça, parce qu'apparemment, c'est pas noté hein, dans la.
Dans c'est pas dans la convention ?
Non. Alors, est-ce que c'est ailleurs ? Peut-être. Enfin, ce serait peut-être au moment où ils vont. Enfin, on va envoyer les offres, quoi. Enfin.
Ça sera dans les éléments du marché, en fait. Voilà. Et le marché sera pour trois ans. Bien, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Réaménagement de l'ancien centre médico-social en trois appartements. Attribution du marché. Rapporteur Michel Lagarde.
La municipalité de Camaret-sur-Aigle, dans le cadre de sa politique de rénovation et de la dynamisation du cœur de village, a décidé de réhabiliter l'immeuble de l'ancien centre médico-social jouxtant le Ravelin. Outre la mise en valeur de l'entrée de ville aux abords d'un monument historique, ces travaux permettront d'ouvrir à la location conventionnée deux logements de type T2, 43 mètres carrés chacun, ainsi que la création d'un logement d'accueil d'urgence d'une superficie équivalente qui sera gérée par le centre communal d'action sociale de Camaret-sur-Aigle. Eu égard au coût estimatif de l'opération et afin d'assurer le respect des principes de libre accès à la commande publique et de mise en concurrence des entreprises, la commune a utilisé la procédure de marché de travaux à procédure adaptée définie à l'article 27 de la réglementation des marchés publics pour la désignation des entreprises susceptibles de réaliser ces travaux. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, vu la réglementation des marchés publics, vu le budget 2017 de la commune, vu l'avis de la commission des finances réunie le 20 septembre 2017, le marché à procédure adaptée MAPA numéro 2017-05 est divisé en six lots. La date limite des remises des offres était fixée au 31 juillet 2017 à 14h. L'ouverture des prix s'est déroulée le 14 août 2017. L'analyse technique a été réalisée par le cabinet Archibloc. Il ressort que les offres suivantes ont été retenues. Prix hors taxe. Lot numéro 1, gros œuvre charpente, couverture, enduit, carrelage, faïence, SAS, RP, maçonnerie, 109 967,73 €. Lot numéro 2, menuiserie extérieure et intérieure, serrurerie, SAS, menuiserie Vincent, 37 231 €. Lot numéro 3, cloison, doublage, faux plafond, SARL, color plaque, 22 828,27 €. Lot numéro 4, peinture, nettoyage, sarle, color plaque, 11 569,45 €. Lot numéro 5, électricité courante faible, Bresse, 23 500 €. Lot numéro 6, chauffage, ventilation, plomberie, DT fluide, 19 355,06 €. Pour un montant total du marché de 224 451 euros, 51 centimes. Hors taxe. Le budget provisionnel initial était de 260 000 euros hors taxe. Conformément à la réglementation des marchés publics et au Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à attribuer chacun des lots du marché à procédure adaptée MAPA numéro 2017-05 et à signer tout document afférent à l'exécution de ce marché à destination des candidats retenus pour les montants suivants et pour un montant total du marché de 224 451 51 centimes hors taxe selon la répartition suivante.
C'est bon.
Ça, je vous l'ai déjà dit. Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 21, immobilisation corporelle, article 21 de 318, autres bâtiments du budget communal.
Merci. Y a-t-il des questions ? Ben, si il n'y a pas de questions, c'est d'ailleurs un sujet que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans ce conseil. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Donc je précise quand même que toutes les entreprises donc, qui ont été choisies sont du Vaucluse, sont vauclusiennes. Le début des travaux est prévu pour début octobre, pour une durée de 6 mois maximum. On refait donc vraiment tout de A à Z, hein, de fond en comble, y compris la toiture et la charpente. Voilà. Donc je vous remercie. Nous passons au dossier numéro 4, numéro 5, montant des loyers des logements et locaux communaux, rapporteur Sylvette Gilles.
Suite à la vacance de logements communaux et à des changements de locataires dans un certain nombre d'appartements communaux, la commune entend fixer les montants des loyers communaux comme suit. Donc le détail des logements communaux, je ne vais pas tout lire, et au verso, les locaux communaux. Considérant que ces montants ne sauraient être regardés comme excessifs en comparaison des loyers pratiqués sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver les montants des loyers fixés ci-dessus, de préciser que ces nouveaux loyers feront l'objet des actualisations annuelles publiées par l'INSEE, d'autoriser Monsieur le maire à réclamer un mois de caution à tout nouveau locataire de logements communaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document concernant cette location.
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, Georges Point. Absolument. Oui. On a augmenté. Alors, hop. Il y a eu donc un départ de 4 locataires. Donc, nous avons fait un certain nombre de travaux de rénovation. Nous avions des loyers qui étaient à simplement 224 euros, voire 68 euros, pour des appartements de près de 70 mètres carrés. Donc, on a un petit peu tout réévalué. Donc, vous avez vu qu'il y a quand même pour certains logements une augmentation significative du montant du loyer. C'était trop bas, oui, bien sûr. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Arcuzet. Adopté à la majorité. Dossier numéro 6. Occupation précaire de parcelles du domaine privé de la commune. La ville de Camaret est propriétaire des parcelles cadastrées section A numéro 155 pour 2550 m², 156 même superficie, 170, 2515 mètres carrés, 195, 7410 mètres carrés et 197, 2760 mètres carrés, donc d'une superficie totale de 1,77 hectares, 6 quartiers Jonquier-Morel à Camaret. Ces parcelles du domaine privé de la commune ont été acquises en 2003 et 2004 afin de constituer une réserve foncière pour favoriser le développement économique communal. Dans l'attente d'une extension future des actuelles zones de développement économique, ces terrains peuvent être utilisés pour des activités conformes au PLU, approuvé le 16 décembre 2016. En ce sens, ces terrains peuvent être mis en location sur la base d'un bail d'occupation précaire du domaine privé de la commune. La ville pourra récupérer le bien mis à la disposition de l'occupant précaire en cas de réalisation de l'opération d'aménagement projeté ou dans les cas prévus par une convention. Il a donc été rédigé un projet de convention d'occupation précaire d'une durée de 3 ans avec la SAS Pôle de valorisation biomasse exerçant une activité de valorisation de la biomasse sylvicole qui s'insère dans le projet national de valorisation de la biomasse découlant de l'application de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 repris dans l'article L211-8 du Code de l'énergie. Cette activité ne concernera que des bois naturels, à l'exclusion de tout bois d'origine industrielle ou ayant subi des traitements par des produits susceptibles d'entraîner une quelconque pollution de l'environnement. Une redevance annuelle de 950 euros sera payée par l'occupant durant toute l'année de la convention. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention d'occupation précaire du domaine privé de la commune pour les parcelles cadastrées section A numéro 155, 156, 170, 195 et 197 avec la SAS, pôle de valorisation biomasse et tout document afférent à ce dossier. Les recettes correspondantes seront imputées en section de fonctionnement au chapitre 70, article 70-388 du budget communal. Voilà, vous avez la convention qui est jointe au dossier. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui ?
Oui. Dans l'article 3, affectation, on parle affectation de la parcelle.
Oui.
Et on répète la parcelle. Là, il s'agit de plusieurs parcelles et on retrouve dans l'état des lieux, article 5, l'occupant prendra la parcelle. Je pense qu'il faudrait rectifier
Oui, on pourrait mettre plutôt les parcelles.
Les parcelles, voilà.
Oui.
Autre chose.
Bonne remarque.
J'ai regardé un peu l'activité de cette société. Sur ces parcelles-là, ils vont faire, en fait, si j'ai bien compris, que du stockage.
Oui.
Que ça, hein.
Parce
que ils ont d'autres activités, hein. Process de broyage, de ces.
Oui, enfin, stocker et broyage. Broyage quand même aussi, hein.
Et ils vont broyer comment avec.
Avec le matériel adéquat.
Les
engins mobiles qui ne seront pas à demeure sur les parcelles.
Alimenter comment ? Parce que là, c'est en pleine campagne, hein, donc. Enfin, je ne sais pas. Enfin, ça me. Vous savez pas. Bon, ok. Parce que le broyage, broyer ce type de matériaux, il faut quand même quelque chose de conséquent en termes de puissance. Alors, c'est ou au fioul, parce que je ne sais pas s'il y a de l'électricité, ou ils vont faire une demande de raccordement d'une puissance quand même assez importante.
Non, a priori, non.
Moi, je pense que vous devriez vous intéresser à la question. Parce
non, mais ils nous ont pas fait de demande de raccordement quelconque, d'après ce qu'on a compris.
Donc, ça va être au fioul. Alors,
ça va être au fioul, oui.
Au fioul.
Thermique. Bon. Moteur thermique. Ouais.
Voilà, moi, c'est ce que je voulais savoir. Puis, si vous permettez, je passe la parole à Laurent Arcuzet. Il a une question complémentaire à vous poser.
Monsieur Arcuzet.
Oui, je voulais savoir si, du coup, ça va nécessiter pas mal de transport, j'imagine, en camion. Est-ce qu'on a évalué le nombre de rotations de camions qui va avoir ? Et par rapport à l'accès, est-ce que les dangers éventuels ont été pris en question ? Parce qu'on est sur une route très circulante, rapide. Et l'accès me semble quand même un petit peu dangereux. Est-ce que ça a été prévu ?
Ça a été prévu, non, ils ne nous ont pas fait part pour l'instant du volume des rotations de camions. Hein. Eux-mêmes, je pense, sont pour l'instant pas tout à fait capables de le dire. Ça dépendra de l'obtention de certains marchés qu'ils ont en vue, notamment la centrale de Gardanne. Voilà, on en saura un petit peu plus plus tard. Mais croyez bien que nous serons attentifs à ces problèmes de sécurité sur des voies qui sont pas énormément passantes, mais enfin qui sont pas faites pour une circulation intense de camions. Ils nous ont assuré que de ce point de vue-là, ça n'est pas présenté d'inconvénients majeurs.
Non, mais je parle de la route de Sérignan, parce qu'ils vont arriver là et à un moment donné, ils vont devoir ralentir pour tourner.
Le chemin n'est pas bien grand. Quand ils vont ressortir, dans quel sens ils vont sortir, enfin, à mon avis, c'est quand même...
L'accès est élargi.
Ah oui, en effet, mais ça c'est tout nouveau, alors c'est tout récent. Ouais. Dans le cadre des travaux de la conduite de délestage d'assainissement de la station d'épuration de Sérignan vers celle de Camaret, il y a eu de la part de la CCOP un élargissement de la voie quand même de 3 mètres.
Et on sait si c'est des semi-remorques ou des... Enfin, quel type de camion ils vont utiliser ? On ne sait rien. Bon.
Puis je crois qu'on ne peut que se réjouir de l'arrivée sur Camaret d'une nouvelle entreprise, et en plus qui est dans le développement durable, qui va soulager un bon nombre d'entreprises de bâtiments, de travaux publics, qui sont obligées à un coût important de se débarrasser de tous ces bois, qui, je le rappelle, ne sont que des bois naturels, hein, il n'y a pas du tout, ce ne sont pas des bois industriels et ce ne sont pas des bois traités. Donc c'est une nouvelle filière de recyclage de ces bois qui s'installe sur Camaret. Je pense que c'est une excellente chose pour la commune.
On ne remet pas en cause l'intérêt de ce type d'activité.
D'accord.
Bien au contraire.
Très bien.
Nous, on veut simplement vous attirer l'attention sur l'accès aux camions et du coup au danger que ça peut occasionner sur la route de Sérignan.
Je vous remercie pour votre sollicitude. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 7, marché de Noël, révision des tarifs pour les emplacements. Rapporteur Elvire Théouki.
Afin de permettre une meilleure organisation du marché de Noël, il a été institué des tarifs pour les emplacements des forains par délibération numéro 2015, délib 069, du 29 septembre 2015, puis modifié par délibération numéro 2016, délib 067, du 22 septembre 2016. Désormais, il convient d'appliquer des tarifs particuliers pour les stands de restauration comme suit. Dimension et emplacement avec ou sans électricité, donc 2,20 m, 50 euros, 4,40 m, 70 euros. Les tarifs pour les autres exposants restent inchangés comme énumérés ci-dessous. Pour les camarets toits, 2,20 m, 2 euros, 4,40 m, 4 euros, et pour les extérieurs, 10 euros et 15 euros. Le paiement sera demandé aux exposants classiques et aux professionnels des métiers de bouche et de gastronomie au même moment que le dépôt du dossier d'inscription par chèque libellé à l'ordre du Trésor public. La caution de 50 euros mise en place par délibération en date du 29 juillet 2010 reste en vigueur dans les mêmes conditions. Vu l'avis de la Commission des finances en date du 20 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d'accepter de fixer les tarifs des stands de restauration comme suit, donc le même tableau, d'accepter de maintenir les tarifs des emplacements pour le marché de Noël pour les exposants classiques comme suit, donc c'est pareil.
Merci. Y a-t-il des questions ? René Sauvera.
Excusez-moi. Oui, qu'est-ce qui est sous-entendu dans le stand de restauration ?
Alors, ce sont tous les stands qui vont faire des dégustations, les assiettes de dégustation, qui vont rester donc le midi et le soir et qui vont servir les assiettes. Parce que du coup, ça nous coûte un coup pour nettoyer les salles. Parce que l'année dernière, on s'est rendu compte, ben, quand on est arrivé, il a fallu faire le nettoyage. Il n'y avait pas de société. Ça demande quand même beaucoup de dispositifs différemment. Vous avez le concert aussi pour que les gens restent le soir, le DJ. Donc tout ça a un coût. Et donc on est obligé de le reporter sur les métiers de bouche.
Mais il s'agit bien des métiers de bouche, enfin des professionnels et non pas des associations.
Oui, nous par exemple on propose des assiettes à la dégustation, ce qui implique.
Vous n'êtes pas professionnel. Voilà, okay. C'est tous les professionnels.
C'était une bonne question.
Oui.
C'est très bien.
La commune, tu as vu, on a rien changé. On a laissé les camarades et toi, les choses.
Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Mengui et monsieur Arcusé. Adopté à la majorité. Dossier numéro 8. Demande de subvention dans le cadre de la manifestation Camaret Fête le Vin, prévue le samedi 18 novembre 2017. Rapporteur Elvire Théoki.
La commune de Camaret-sur-Aigle organise en partenariat avec l'UCAV et les jeunes agriculteurs du Vaucluse la quatrième édition de la manifestation Camaret Fête le Vin. Tout comme en 2016, cette fête sera couplée avec l'inauguration des illuminations de Noël. Dans cette perspective, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Crédit Agricole et de Groupama au titre de la mise en valeur d'une activité économique locale. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu l'avis de la Commission des finances réunie le 20 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le budget prévisionnel de la manifestation. Donc vous avez le tableau avec les dépenses et les recettes. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les énumère ou si on peut passer. C'est bon. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès du Crédit Agricole et de Groupama. Il est précisé que ces recettes seront encaissées sur le compte budgétaire 7478 sur l'émission d'un titre de recette.
Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Arcusé.
Je veux savoir combien de repas avaient été distribués l'année dernière.
Une très bonne question.
Entre 130 et 150, je ne me rappelle plus exactement.
Monsieur le DGS nous précise que le budget de cette manifestation avait été à peu près équilibré avec un petit déficit de 300 euros. Qui va peut-être se reproduire cette année, on verra. Tout dépendra de beaucoup de choses. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10, versement de la part communale de l'indemnité représentative de loge. Ah, il y a le tarif de repas aussi. Manifestation Camaret Fête le Vin, tarif du repas, rapporteur Elvire Théoki.
La commune de Camaret-sur-Aigle organise traditionnellement une soirée dansante Camaret Fête le Vin, le troisième samedi de novembre. Cette manifestation sera organisée en partenariat avec l'Association des jeunes agriculteurs du Vaucluse et l'Union des commerçants, artisans et viticulteurs de Camaret-sur-Aigle. Dans cette perspective, il est proposé d'organiser un repas avec participation financière des participants. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances, fêtes et animations, considérant qu'il est nécessaire de définir les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité dans le cadre de cette manifestation. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité à l'occasion de la soirée dansante Camaret Fête le Vin comme suit. 17 euros par adulte, 6 euros par enfant de moins de 14 ans. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie Fête et Animation et encaissé à l'article budgétaire 7062.
Pas de questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Arcusé, adopté à la majorité. Et donc, maintenant, effectivement, dossier numéro 10, versement de la part communale de l'indemnité représentative de logement d'un instituteur non logé par la commune, rapporteur Jean-François Leroy.
Versement de la part communale de l'indemnité représentative de logement d'un instituteur non logé par la commune. Vu les articles L212-5 et R212-7 à R212-18 du Code de l'éducation, vu les articles L2334-26 à L2334-31 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article R2334-14 du Code général des collectivités territoriales. En application du principe possible posée par les lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1887, les communes sont tenues de fournir un logement aux instituteurs. À défaut, ces derniers bénéficient d'une indemnité représentative de logement IRL. Vu l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 fixant pour l'année 2016 le montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs non logés ayant droit à 2 297,45 €, considérant que l'indemnité de logement de base fixée à 2 297,45 € est prise en charge par l'État et que les instituteurs bénéficiant de la majoration de 25% percevront au titre de l'année 2016 une indemnité de logement de 2 871,81 €. Imposant une contribution communale annuelle de 63,81 € par instituteur bénéficiant de cette majoration. Considérant qu'il s'agit d'une dépense communale obligatoire, considérant que la commune de Camaret-sur-Aigle compte un instituteur ayant droit, vu le budget de la commune pour l'année 2017, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder au mandatement de la part communale de l'indemnité représentative de logement aux instituteurs concernés pour un montant de total 63,81 €. Les sommes correspondantes seront imputées à l'article budgétaire 6556 de la section de fonctionnement du budget principal de la commune. Merci.
Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11, syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aigle-Ouvèze, approbation du rapport d'activité 2016, rapporteur Hervé Auriac.
Conformément à la loi 99-586 du 12 juillet 99 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et à l'article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président du syndicat intercommunal des eaux, RAO, doit adresser avant le 30 septembre un rapport annuel d'activité au maire de chaque commune membre et doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Ce rapport dresse un bilan synthétique de l'action de la collectivité et permet ainsi d'évaluer les moyens humains et financiers mobilisés pour la bonne marche du service de l'eau potable. En 2016, le syndicat RAO compte toujours 74 délégués titulaires et 37 communes membres. 4 comités syndicaux se sont réunis et 34 délibérations ont été prises. En 2016, 15 marchés supérieurs à 5 000 € ont été attribués. Travaux MAC de 2016 à 2020, des études géométriques pour les travaux de gestion patrimoniale à Mornas, travaux de gestion patrimoniale à Piolenc, contrôle de compactage MAC 2016-2019, assistance à maître d'ouvrage pour le contrat de délégation de services publics, maîtrise d'œuvre pour la gestion patrimoniale au Cresté, maîtrise d'œuvre pour la gestion patrimoniale de Bolène-Écluse, études géotechniques des réservoirs de Buisson-le-Cresté, travaux de gestion patrimoniale de Bolène-le-Barry, travaux de création de forage pour le Miocène, marché pour les assurances, travaux de gestion patrimoniale, travaux de reprise de la station de Mérindol, études de diagraphie et vidéo pour la création de forage de Miocène, travaux de reprise de la station de Mérindol. En 2015, le syndicat RAO a réalisé 1 984 327,41 € de travaux de renouvellement de réseau et a reçu 554 234 € de subventions relatives à la gestion patrimoniale et la réduction des pertes en eau. En 2016, de nombreuses réunions entre les services du RAO et le délégataire ont été organisées afin de suivre régulièrement son activité et le respect des clauses contractuelles. Le contrat de DSP signé avec la société SOR arrivera à son terme le 15 mai 2018. Afin d'anticiper cette échéance, le RAO s'est fait accompagner dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les domaines techniques, juridiques et financiers pour la procédure de choix du mode de gestion et la mise en œuvre de ce choix. Dans le cadre de cette mission, un audit de fin de contrat a été réalisé. Il a permis de mettre en avant les principales modifications contractuelles apportées dans le cadre d'un nouveau contrat de délégation de services publics et de mettre en évidence certains aspects du contrat actuel qui ont fait l'objet de négociations avec le délégataire. Le syndicat RAO et la société SOR, en partenariat avec API Environnement, ont poursuivi en 2016 leur action pour la réimplantation des abeilles sur le territoire. Les 6 ruches positionnées sur la commune de Mornas ont permis en 2016 de récolter 95 kilos contre 30 kilos en 2015. L'objectif est ainsi d'agir en faveur de la biodiversité et de participer à la lutte contre la disparition massive des abeilles en France. Cette initiative revêt également un aspect économique en permettant le développement de l'apiculture locale. Le syndicat et son délégataire ont édité 2 magazines eau à destination des délégués du RAO et des maires des communes membres. Des exemplaires de ce magazine ont également été mis à disposition des abonnés à l'accueil des mairies, du syndicat et de la SOR. Le soutien financier apporté ces dernières années à l'association Entraide Mali, le siège social est à Huchot, pour un projet d'adduction d'eau potable sommaire dans la commune de Yakalena, a permis de faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations. Le 15 mars 2016, l'eau a coulé aux 10 fontaines créées, rapprochant ainsi les points d'eau potable des usagers et multipliant les points de prélèvement. En novembre, l'inauguration officielle a eu lieu avec la pose de la plaque en présence des autorités, dont le préfet, le gouverneur de région et monsieur le maire d'Huchot. Le 1er octobre 2016, un adjoint administratif a rejoint l'équipe du syndicat RAO en vue d'un départ à la retraite. Ses missions consistent à assurer l'accueil, le secrétariat et la gestion du personnel. Enfin, le résultat d'exercice en section d'investissement s'élève à 4 447 486,11 €. Il est donc demandé au Conseil de prendre acte du rapport d'activité pour l'année 2016. Des questions ?
Juste une petite remarque. Là. On fait état des travaux de renouvellement en 2015 et pas en 2016. Là, on nous donne simplement le résultat global de l'investissement. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu autant de renouvellement de réseau en 2016 qu'en 2015?
Les travaux continuent, oui, en fonction des demandes et puis de la vétusté.
Je veux dire, je voulais avoir une idée du montant à peu près de ce qui est...
On est pratiquement sur le même montant qu'on a d'investissement. Oui, okay, merci. Autre chose?
Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 12, syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aigues-Ouvèze, approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'adduction d'eau potable, exercice 2016, rapporteur Hervé Aurillac.
Depuis la loi 95-101 du 2 février 95 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, et le décret numéro 95-635 du 6 mai 95, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable doit être présenté au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice concerné. Ce rapport, présenté au comité syndical, doit ensuite être présenté au conseil municipal de chacune des communes, membres du syndicat des eaux du RAO. La compétence d'organisation du service public de l'eau potable revient au syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aigues-Ouvèze. L'exploitation du service est assurée sous la forme de contrats d'affermage confiés à la Société d'aménagement urbain et rural, la SOR, depuis le 16 mai 2008, avec une entrée en vigueur au 17 juin 2008 pour une durée de 10 ans. Cette dernière est dotée d'une structure régionale comprenant le centre de gestion abonnés et usagers à Nîmes, d'une agence territoriale à Sainte-Cécile, ainsi que des antennes à Bolène et Vaison. Le syndicat intercommunal des eaux est maître d'ouvrage pour tous les travaux de renforcement et ou d'extension du patrimoine, ainsi que les travaux de renouvellement de génie civil, des captages et des canalisations. Concernant le prix du service, les paliers de tarification de la part délégataire prévus dans le contrat de délégation de services publics sont terminés depuis 2010. La variation de la part délégataire est désormais fondée uniquement sur l'actualisation des prix prévus dans le contrat de délégation de services publics. On peut constater également que le prix de l'eau, en 2016, reste plus bas que celui de janvier 2008, hors organisme public. Toutefois, la facture d'eau type 120 m3 au 1er avril 2016, 271,20 € TTC, soit 2,26 € par mètre cube, est légèrement supérieure à la facture type 120 m3 de janvier 2008, qui était de 268,54 €. Les données chiffrées sont les suivantes. 37 communes, 8 dans la Drôme et 29 dans le Vaucluse. 68 511 habitants, 34 943 abonnés desservis, 1818 pour Camaret-sur-Aigle en 2016, 1796 en 2015. 3 946 980 mètres cubes consommés, 149 837 mètres cubes pour Camaret en 2016, 157 150 en 2015. 1224 km de réseau, identique à 2015. Il est donc demandé au Conseil de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'adduction d'eau potable pour l'exercice 2016, présenté par le syndicat intercommunal des eaux Rhône et Gouvèze et la société d'aménagement urbain et rural. Question ? C'est juste un compte rendu. Merci.
Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13. Copropriété 1 cours du Midi, désignation d'un représentant de la commune. La commune de Camaret-sur-Aigle est propriétaire d'un local au rez-de-chaussée de l'immeuble 6 1 cours du Midi, parcelle cadastrée section AW numéro 227, est soumis au régime de la copropriété. Un règlement de copropriété a été établi par le cabinet Bétard en date du 9 mai 2016. Les articles 22 et 23 de ce règlement prévoient la constitution d'un syndicat des copropriétaires avec son assemblée générale pour assurer la gestion de la copropriété. L'article 24 du même règlement prévoit la possibilité de désigner un syndic pour l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires. Il est demandé au conseil municipal de procéder à la nomination de Madame Christine Winkelmann, adjointe au maire délégué à l'urbanisme, comme représentant de la commune au sein de l'Assemblée générale des copropriétaires du 1 cours du Midi. D'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer tout document se rapportant à ce dossier. Pas de questions. Donc là, nous sommes dans la suite logique de la vente de l'appartement. Donc, concernant l'immeuble, il y a maintenant une copropriété. Eh bien, écoutez, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Messieurs Mengui et Arcusé, adopté à la majorité. Dossier numéro 14. Regroupement des casernes de pompiers de Sérignan-du-Comtat et Camaret-sur-Aigle. Acquisition de terrain. Par délibération numéro 2016-DELIVE-048 du 26 mai 2016, le conseil municipal a approuvé le projet de regroupement des casernes de pompiers de Sérignan-du-Comtat et de Camaret. Dans cet objectif, les deux communes sont entrées en pourparlers avec un particulier en vue de l'acquisition sur la commune de Sérignan d'un terrain support de cette future opération. Les négociations ayant abouti, un bornage a été réalisé et l'acquisition peut avoir lieu. Il a été décidé d'acquérir la parcelle cadastrée section AV numéro 179 d'une superficie de 3249 m², 6 zones d'activité lagarrigue du Réméron à Sérignan pour la somme de 45 € du mètre carré, soit 146 205 €. La répartition du prix de l'acquisition entre les deux communes s'opère sur la base des populations respectives, à savoir 66% pour Camaret et 34% pour Sérignan. Le coût de l'acquisition pour la commune s'élève à 96 495 €, hors éventuels frais notariés. La commune de Sérignan procédera à l'acquisition du terrain et la commune de Camaret versera sa quote-part sur la base de la convention rédigée en ce sens et soumise à l'approbation du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention pour l'acquisition et la viabilisation d'un terrain par les communes de Camaret et Sérignan portant sur la parcelle cadastrée section AV numéro 179 d'une superficie de 3249 m², 6 zones d'activité lagarrigue du Raméron à Sérignan, d'accepter la quote-part pour la commune de 96 495 €, hors éventuels frais notariés, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà, y a-t-il des questions ? Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 15. contrat groupe assurance pour les risques statutaires, rapporteur Antonio Buga.
Dans le cadre de la mise en place du contrat d'assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de Vaucluse, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse a lancé une consultation sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation. À cet effet, la commune de Camaret-sur-Aigle a, par délibération numéro 2017 délib 020 en date du 20 mars 2017, donné mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse pour la négociation d'un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents en application de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret numéro 86-552 du 14 mars 2006. Par courrier en date du 8 août 2017, le centre de gestion a informé la commune de Camaret-sur-Aigle de l'attribution du marché au groupement Sofaxis CNP Assurance et des conditions du contrat. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 26, vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 2006 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Vu le budget de la commune, oui, la proposition de monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au contrat groupe couverture des risques statutaires mis en place par le centre de gestion de Vaucluse selon les caractéristiques suivantes. Compagnie d'assurance, CNP Assurance, courtier gestionnaire, Sofaxis, durée du contrat, 4 ans à compter du 1er janvier 2018, régime du contrat, capitalisation, garantie des taux, 3 ans. Préavis, contrat non résiliable durant les deux premières années, puis adhésion résiliable chaque année à l'échéance moyennant un préavis de 8 mois pour l'assureur et l'assuré. Donc, agent titulaire et stagiaire affilié à la CNRACL, décès, accident du travail et maladie imputable aux services sans franchise, longue maladie et maladie longue durée sans franchise, maternité, paternité, adoption sans franchise, maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt. Donc montant 8,70% du capital, agent titulaire ou stagiaire non affilié à la CNRACL et agent non titulaire de droit public, accident du travail, maladie grave sans franchise, maternité, maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt, 1,10%, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte y afférent, d'approuver la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles s'établissent et s'organisent entre le CDG 84 et la collectivité les relations relatives à la gestion du contrat d'assurance statutaire souscrit, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention précitée avec le centre de gestion du Vaucluse.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16. Modification du tableau théorique des effectifs. Rapporteur Antonio Muga.
Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, vu la délibération du 18 mai 2016 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, vu le départ à la retraite de certains agents, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agent titulaire, que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'agent d'exploitation, de gardiennage, des équipements et encadrement des agents du service entretien au grade d'opérateur principal des activités physiques et sportives, donc APS, à temps complet, considérant l'intégration au tableau théorique des avancements de grade proposés en commission administrative paritaire du 20 juin 2017, considérant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017 au chapitre 012, oui, les propositions de Monsieur le maire. Il est demandé au conseil municipal d'accepter la création de postes budgétaires suivantes. Un poste d'opérateur principal des APS catégorie C à temps complet pour assurer les fonctions d'agent d'exploitation, de gardiennage, des équipements et encadrement des agents du service entretien. Un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires pour le service entretien collectivité. Un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires pour le service entretien collectivité. Un poste d'adjoint d'animation territoriale principale de première classe à temps complet pour le service enfance jeunesse. D'accepter la suppression des postes suivants. Un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps complet, un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps non complet, à raison de 33 heures hebdomadaires, un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet, à raison de 33 heures hebdomadaires. D'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui.
Donc là, le poste d'opérateur principal des APS est en remplacement de Monsieur Bortolotti. Et il était dans quelle catégorie, lui ? Il était en catégorie C aussi ? Il part en catégorie C, d'accord. D'accord, ok. Ok, et puis, c'est tout ce que je voulais savoir. Oui, enfin, dans la délibération, vous n'évoquez que ce poste-là, hein, quand vous dites considérant, enfin, vu le départ à la retraite de certains agents, et vous n'évoquez que ce poste-là, en plus. Ouais.
Après, le reste, c'est que des agents en poste qui ont pris, voilà.
Je mets aux voix qui est contre. Qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, le dossier complémentaire numéro 1. Ah ben, alors décidément. Ah oui. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité et un accroissement temporaire d'activité. Rapporteur Antonio Buga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement de saisonnier d'activité, considérant que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'adjoint technique territorial. Oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ce poste d'adjoint technique territorial. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement saisonnier. Un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique, d'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc, dossier complémentaire, convention d'accès et d'occupation d'un terrain privé pour travaux communaux. La municipalité de Camaret a décidé de réhabiliter l'immeuble de l'ancien centre médico-social, jouxtant le Ravelin, afin d'y réhabiliter et de créer deux logements locatifs et un logement d'accueil d'urgence. Pour la mise en œuvre des travaux, il est nécessaire que les services communaux ainsi que les entreprises mandatées par la commune puissent occuper la parcelle cadastrée section AW numéro 211 appartenant à M. Déby Mourad. Ce terrain est le seul permettant d'accéder à la façade est du bâtiment communal. Une convention permettant de régler les conditions de cet accès et de cette occupation a été rédigée. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention entre la commune de Camaret et M. Déby Mourad, ainsi que tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, vous avez reçu l'état des déclarations d'intention d'aliéner. Y a-t-il des questions à ce propos ? Il y a aussi l'état des décisions du maire. Pas de questions. Monsieur Mengui.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qui a motivé l'attribution du marché pour l'entretien et le ménage des écoles primaires, qui a été effectué a priori par des agents communaux jusqu'à présent et qui va être confié à un prestataire de services extérieurs ? Je voudrais en savoir un petit peu plus. Et je m'étonne qu'on n'ait jamais évoqué ce sujet-là. Enfin, vous allez peut-être m'affirmer ce que je dis, mais que ce soit, parce qu'il s'agit quand même de 44 000 euros, on n'en a jamais parlé, que ce soit en début d'année, au moment où on a évoqué le débat d'orientation budgétaire. A priori, on n'en a pas parlé non plus quand on a parlé du budget primitif. Donc voilà, je voulais avoir des précisions là-dessus.
Alors, ce qui motive principalement, il y a deux motivations. Motivation, on en a parlé à l'ADM tout à l'heure, monsieur le maire l'a évoqué, la situation financière des collectivités territoriales nous oblige à essayer de trouver des solutions pour réduire nos coûts de fonctionnement. Et en l'occurrence, dans le domaine de l'entretien, l'externalisation permet de faire des économies. Selon les estimations et vu l'attribution de ce marché, sur les deux écoles externalisées, on ferait une économie entre 25 et 30 000 euros annuels, sans compter le fait que nous n'avons plus à acheter les produits d'entretien, que c'est la société qui apporte ses propres produits d'entretien. Ensuite, pourquoi c'est arrivé comme ça en cours d'année ? En fait, on savait qu'on avait des agents 3 sur 4 sur les deux écoles qui allaient partir en retraite. Simplement, les modalités de calcul des départs en retraite deviennent de plus en plus compliquées. Il faut faire appel à différents organismes. Le centre de gestion ne répond pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Et on a su, en fait, qu'au tout début de l'été, fin juin, début juillet, qu'on aurait des départs en retraite en octobre et en novembre d'agents desservant ces écoles. Donc il a été décidé à ce moment-là lancer ce marché pour externaliser l'entretien de ces deux écoles. Sachant que le quatrième agent avait une formation qui était à la base une formation dans l'animation et souhaitait y retourner. Donc ça a permis aussi de réorienter un agent vers la filière d'origine de celle-ci. Voilà. Et pour l'instant, le retour qu'on a, donc il y a un cahier des charges qui est assez serré hein, pour l'entreprise qui a été attributaire, l'entreprise honnête. Et pour l'instant, le retour des directeurs d'école est plutôt positif. C'est-à-dire qu'ils sont aussi satisfaits du travail de l'entreprise que le travail qui était fait, et très bien fait d'ailleurs par nos agents qui sont soit partis en retraite, soit sur le départ en retraite. Voilà.
Merci. Sinon, j'ai...
Oui, juste une remarque. Oui. Nous, on trouve dommageable que sur ce type d'emplois, qui sont des emplois de proximité et des emplois, je dirais, locaux, que vous n'ayez pas cherché à recruter localement, je dirais, enfin, du moins, puisque ces personnes-là, sauf erreur de ma part, elles étaient de Camaret, et je trouve, enfin, sur ce type d'emploi, je trouve dommage qu'on n'ait pas reconduit des emplois municipaux.
Non, non, ben, juste, il se trouve que justement, les entreprises, sous à notre demande, ont recruté des personnes de Camaret pour effectuer le service. Alors, s'il n'y a pas de... Oui, monsieur Arcusé.
C'était juste pour une précision sur le marché concernant la fourniture de produits alimentaires. Les 200 000 euros, c'est hors taxe ou TTC?
Partie
hors
taxe ou TTC?
C'est hors taxe. D'autres questions? Alors, je passe à... J'ai reçu une question écrite de maître Jean-Paul Montagnier, donc que je vous lis. Monsieur le maire, ne pouvant être présent au conseil municipal, pouvez-vous nous informer quand seront enlevés les affreux et dangereux cubes implantés devant le Ravelin? En effet, venant du cours du Nord pour entrer dans la grande rue, de nombreux véhicules se sont accrochés, même au ralenti. Les traces de peinture peuvent en témoigner. Et monsieur maître Montagnier conclut, si les colonnes de Buren à Paris peuvent être majestueuses, les cubes de Camaret sont disgracieux. Bon, alors à cette excellente question, je répondrai ceci. Eh bien, nous avions annoncé que nous procéderions sans doute à l'enlèvement de ces blocs, de ces cubes, qui sont en effet assez dangereux pour la circulation déjà, qui sont en effet assez disgracieux, qui ne s'accordent pas, comme nous l'avions dit à l'époque, du tout avec les pierres et le Ravelin, le mur du Ravelin. Il se trouve que, comme nous allons procéder donc à des travaux de réhabilitation des logements, justement dans la Grand Rue, au tout début de la Grand Rue, nous allons donc avoir une réunion de chantier pour ces travaux lundi, et il est assez vraisemblable que les entreprises, que les artisans vont nous demander d'enlever ces blocs qui vont certainement gêner leur passage et leur travail. Donc il est vraisemblable que nous procédions à l'enlèvement de ces blocs dans un avenir assez proche. Et je signale aussi que certains d'entre eux, ou simplement de quelques années, sont déjà fondillés de façon assez sérieuse. Donc voilà, je pense que décidément, ça n'a pas été une grande réussite. Voilà pour maître Montagnier la réponse à sa question. Alors, monsieur Arcusé.
Donc j'espère avoir aussi une excellente question comme maître Montagnier. En fait, c'est une question qui est récurrente, puisque ça fera plusieurs fois que je vais vous poser. À quand une commune propre, et à quand on va pouvoir enfin mettre nos déchets correctement et pouvoir les trier? La dernière fois que je suis intervenu, c'était en juillet. Vous avez dit, vous allez voir ce que vous allez voir. À la fin de l'été, tout sera résolu. Le constat est affligeant. On a une commune qui est sale. C'est vraiment et que ça soit dans la partie urbaine ou dans la partie rurale, et la gestion des déchets est vraiment catastrophique. Donc vous avez été, enfin il y a une question qui a été posée à la communauté de communes. On n'a pas de réponse. Donc à quand des solutions concrètes pour que ces problèmes qui sont importants, parce que tout à l'heure vous avez dit réunion de quartier, les Camarétois interviennent, on veut plus de voirie, de sécurité. Je suis très étonné qu'ils vous aient pas interpellé quand même sur des problèmes de propreté et de déchets. Ou alors on côtoie pas les mêmes Camarétois, ce qui est fort probable d'ailleurs.
Alors j'ai plusieurs choses à rectifier, chers collègues. D'abord, je ne vous ai pas répondu que ça serait résolu dans l'été. Ça m'étonnerait que je me sois lancé aussi imprudemment dans ce type d'engagement, qui d'ailleurs, comme je l'ai dit et que je suis obligé de répéter, ne dépend pas que de la commune de Camaret. C'est bien la communauté de communes qui est l'organisateur de cette collecte, de ce tri. Donc, en aucun cas, je n'ai pas pu m'engager à la place de la communauté de communes. J'ai simplement dit que la communauté de communes, bien entendu, réfléchissait à trouver des améliorations. je rectifie encore la contre-vérité que vous avez énoncée tout à l'heure. Effectivement, il y a eu une intervention au dernier conseil communautaire, mais une réponse a été apportée par le président de la communauté de communes, Monsieur Maxivan. Donc c'est pas la peine de dire qu'il n'a pas été répondu à cette interpellation. Il a été répondu à cette interpellation. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Vous parlez des inquiétudes des camarades, bien entendu, il y en a. Nous avons constaté dernièrement, justement, notamment sur notre compte Facebook, qu'il y a moins de plaintes sur ce problème-là. Effectivement, il y a des choses qui s'améliorent, qui se sont améliorées au cours de l'été, puisque notamment en ce qui concerne les ordures ménagères, la colonne ordures ménagères qui a été bloquée par un dispositif trop étroit, le dispositif a été enlevé. Il y a quand même moins de sacs qui obstruent la colonne. Alors effectivement, on a constaté tout dernièrement qu'il y avait un sac de 100 litres qui bloquait la colonne. Alors effectivement, si on met des sacs de 100 litres pour des colonnes qui sont prévues pour des sacs de 30 litres, à un moment donné, il faut quand même penser aussi, là je m'adresse à mes chers concitoyens, beaucoup sont tout à fait civiques, sont tout à fait respectueux, mais certains abusent, certains exagèrent. Donc je parle de ce sac de 100 litres qui a bloqué la colonne, mais il y a aussi, ça a été constaté, trop de gens de Camaret, ou peut-être d'ailleurs, en fait, qui prennent leur sac poubelle sans avoir effectué le moindre tri, qui le ferment, qui le mettent dans le coffre de leur voiture, qui se rendent à un point d'apport volontaire, les fameuses colonnes, qui posent le sac, qui ferment leur coffre, qui rentrent dans leur voiture et qui repartent. Ils cherchent même pas à savoir si les colonnes sont saturées ou non. Ils posent le sac en se disant, voilà, c'est un sac de déchets, c'est un centre de ramassage de déchets, ça sera bien embarqué, même si le sac n'est pas trié. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incivilisme aussi, d'incivilité même, je le dirais. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, nous cherchons des solutions pour améliorer le dispositif, mais dans un deuxième temps, il a été décidé, et ça fait partie des réponses qui ont été apportées par le président Maxivan au dernier conseil communautaire, et on va aussi travailler dans le domaine de la réglementation et de la poursuite contre ceux qui commettent ce genre d'incivilité, qui nuisent à l'ensemble du dispositif, qui sabotent le travail des gens qui font ça en toute bonne foi et qui font un effort. Ça, c'est extrêmement dommageable. Je rappelle que ce principe-là, c'est un principe qui de toute façon était inévitable. Il y a de plus en plus de déchets par habitant, donc il faut bien à un moment donné, et les décharges, notamment à ciel ouvert, sont de plus en plus fermées, sont interdites, et heureusement pour la qualité de l'environnement, heureusement, donc le système de ce tri sélectif, c'est vraiment quelque chose qui nous pose des problèmes, qui apporte des contraintes, mais qui est encore une fois inévitable, absolument inévitable. Nous avons été, en ce qui concerne la communauté de communes, un petit peu des pionniers au nombre, avec le nombre de flux traités. Hein, je l'avais déjà dit qu'à Avignon, il n'y avait que 4 flux, nous on en est à 5, alors ça pose plus de problèmes, c'est plus compliqué, mais on est vraiment en pointe dans ce domaine-là, et c'est une très bonne chose. Alors ça pose des problèmes d'organisation qui vont être assez longs à résoudre, en particulier par le fait que la commune n'est pas complètement couverte par les colonnes. Donc il y a des gens qui, encore une fois, en toute bonne foi, disent ben, je suis pas concerné. Ils savent qu'ils ne sont pas concernés, mais ils apportent quand même leurs déchets au tri sélectif, en particulier les EMR, hein, les déchets ménagers qui sont recyclables. Ils disent ben voilà, ça fera plus de tri sélectif, mais en attendant, c'était pas prévu pour ça. Il y a des colonnes de déchets qui relèvent des sacs jaunes, qui sont occupés donc par des gens qui font un petit peu de l'excès de zèle. On peut pas les en blâmer, mais ça cause quand même un certain engorgement. Ce sont les deux seuls flux en fait qui posent problème, hein. Ce sont les ordures ménagères et les EMR. Alors en ce qui concerne ces flux, on continue à travailler sur ce dossier, bien entendu, on ne reste pas inactif. Et pour ce qui concerne la commune de Camaret, on va d'ores et déjà, dans un proche avenir, doubler en termes de d'ordures ménagères et de déchets qui relèvent des sacs jaunes, du recyclable. On va doubler le nombre de colonnes par site, ce qui va quand même permettre. Ça ne résoudra toujours pas tout, ça n'évitera pas les incivilités, mais sur un certain nombre de sites de la commune, il y aura deux colonnes pour les ordures ménagères et deux colonnes pour les EMR. Donc ça va un petit peu améliorer le dispositif, qui de toute façon ne sera pleinement efficace qu'une fois, à mon avis, que toute la commune sera couverte par les colonnes. On a un calendrier, oui, en 2000, donc dans l'année qui vient, on va procéder à cette installation.
Là, nous allons avoir.
Non, pas la totalité.
Nous allons avoir, avant la fin de l'année, 14 colonnes supplémentaires. Un site nouveau sur le parking à gaz à l'entrée du stade de l'allée des sports. Et des colonnes, comme l'a dit monsieur le maire, d'ordures ménagères et EMR qui vont être doublées sur un certain nombre de sites afin d'absorber le trop-plein qui a été constaté sur certains sites. Et en 2018, il y aura de nouveau une nouvelle campagne de l'installation des nouveaux points.
Et j'ajoute qu'il y a constamment un agent municipal des services techniques qui lui aussi essaye de pallier à certains problèmes et qui procède à beaucoup de nettoyage et de ramassage. Alors que ça devrait être le rôle de la communauté de communes.
Là, on doublonne les
activités. Voilà, on est dans X.
Bon. Ah ben non, mais attendez. Vous habitez Camaré comme moi. Cet été, au mois d'août, ne dites pas que ça s'est amélioré. C'était innommable.
Chien.
D'une part. Oui, non, mais d'accord.
Non, mais je. On délègue du personnel. Justement,
oui, non,
pour
mais...
éviter ce type de réflexion, pour éviter que monsieur le maire...
Non, mais écoutez, prenez-la comme vous voulez. Hein.
Il passe tous les jours, il y a deux...
Vous pouvez repasser.
Très bien, on le sait, on y a encore passé ce matin, justement, pour déterminer de nouveaux emplacements. On est confronté à ce problème, on n'y est pour rien, vous avez eu des cas qui ont été annoncés, il y a des gens qui vont vous laisser des sacs de journaux à côté de...
Non, mais je le vois au quotidien. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on mette ça, pour l'essentiel, sur l'incivilité des gens. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire des campagnes d'information. Un exemple très, très simple, j'habite à côté du lotissement, qu'on appelle lotissement... les Cantarelles. Et je me suis retrouvé avec un jeune homme qui apportait ses fameux sacs. Mais je lui dis, mais donc on a abordé le sujet. Il ne sait pas, et ses parents apparemment non plus, ne savent pas qu'il faut, pour ce qui est des ordures ménagères, un badge. Vous voyez, il y a un travail... Je vais au bout de mon raisonnement. Il y a aussi encore à faire de l'information. Parce que, il faut en faire en permanence. Et il y a aussi, à mon avis, deux choses qui semblent ne pas fonctionner. C'est la fréquence de la levée des trucs qui devrait être augmentée. Oui, je le sais. Oui, je les entends chez moi.
Deux levées par semaine, que ce soit les OM ou les EMR, il y a deux levées par semaine. Le lundi, le jeudi, le mardi, le vendredi.
Non, mais ça, je le sais.
On s'est aperçu, vous avez raison, on constate qu'également, il y a ces sacs qui sont à l'extérieur. Il y a peut-être un manque de place, donc on va doubler certains. Après, on verra. On ne peut pas tout faire d'un coup.
Non, mais d'accord, mais...
On est une communauté de communes également.
D'accord, mais enfin vous y siégez et vous représentez la deuxième commune de la Terco, donc vous avez la commune de Camaré a un poids de temps en temps si elle tapait un peu sur le point sur la table, je pense qu'elle serait écoutée quand même.
C'est à notre initiative, je rappellerai que ces modifications des colonnes ont été faites, en particulier la colonne ordures ménagères ainsi que la colonne des biodéchets.
Et je voudrais juste conclure en disant que si la solution, le ramassage s'améliore pas, au moment où ça va être développé, puisque je crois que c'est ça l'objet, c'est de développer sur l'ensemble du territoire, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Voilà. C'est le sens aussi de nos interventions.
Justement, c'est là où je voulais vous répondre, parce que ne faites pas comme votre collègue Arcuzet, ne déformez pas mes propos. Je n'ai pas dit que les problèmes actuels sont causés essentiellement par les incivilités. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire.
C'est ce que j'ai compris.
Oui, par hasard.
Vous avez fortement insisté là-dessus.
C'est parce que c'est un phénomène qui existe, mais j'ai parlé aussi du deuxième phénomène qui est une cause du problème, c'est que justement toute la commune n'est pas concernée pour l'instant par les colonnes, et il y a des gens qui, croyant bien faire, amènent leurs déchets au tri sélectif alors qu'ils ne sont pas concernés. Voilà, j'ai beaucoup insisté là-dessus aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous annonce que la prochaine séance est le 16 novembre, jeudi 16 novembre. Merci.